Pour ce nouveau podcast Capitaine, nous partons à la rencontre de Christian Blanc et de Théo Stabols pour échanger ensemble sur la mythique restructuration d'Air France au début des années 90. En octobre 1993, Air France est au bord de la faillite. La compagnie perd de l'argent à chaque fois qu'un avion décolle et elle traverse une des plus graves crises sociales de son histoire. C'est dans ce contexte chaotique que Christian Blanc, ancien haut fonctionnaire aguerri aux situations de crise pour avoir notamment réformé la RATP quelques années auparavant, est appelé en urgence au chevet de l'entreprise. Dès son arrivée, il fait bouger les lignes et rompt avec les précédentes méthodes de management. Il parvient à gagner la confiance des salariés en communiquant avec eux et en les impliquant dans le projet de reprise. Et ça marche. Près de 30 ans plus tard, Théo Stabols, jeune écrivain et rédacteur indépendant, se passionne également pour cette restructuration hors norme qu'il choisit de raconter dans un livre, Air France, mourir ou renaître, paru aux éditions JPO il y a quelques mois. En s'appuyant sur des centaines d'articles de presse, des documents d'archives et de nombreux entretiens avec Christian Blanc, Théo parvient à nous faire vivre de l'intérieur, de façon passionnante, cette restructuration. Un ouvrage que nous vous recommandons pleinement. Alors à l'heure où nous fêtons les 90 ans d'Air France, nous sommes très heureux de revenir avec Christian Blanc et Théo Stabols sur cette folle aventure. Christian Blanc, Théo Stabols, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour échanger aujourd'hui sur la restructuration d'Air France avec le point de vue de Christian Blanc qu'il a vécu de l'intérieur et puis Théo, vous qui avez travaillé beaucoup sur cette restructuration à travers votre livre dont en fait on va parler tout au long de cet échange. Alors peut-être que avant de rentrer dans le cœur de la restructuration, on peut revenir un peu sur les caractéristiques d'Air France. C'est quand même une entreprise qui est une entreprise française emblématique. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les caractéristiques de cette entreprise à l'époque ?
Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir pour ce podcast avec Christian Blanc. Je pense que ce qu'on peut dire sur Air France à l'époque en 1990, c'est que c'est une entreprise qui est vraiment à part. C'est une entreprise publique qui est détenue à 97% par l'État. Et puis c'est une entreprise qui compte dans le cœur des Français, qui a le drapeau tricolore peint sur sa carlingue, sur la carlingue de ses avions. C'est une entreprise qui, sur beaucoup d'aspects, que ce soit ses modes d'organisation, ses modes de travail, ses liens avec le politique, est une entreprise à part. Donc ces liens avec le politique, ils sont inévitables parce que c'est une entreprise publique, mais ça a aussi beaucoup coûté à l'entreprise en termes de replacement de conseillers techniques, conseillers ministériels à des postes clés de l'entreprise. En termes aussi d'exigences que pouvaient avoir les gouvernements successifs par rapport au maintien de lignes qui n'étaient pas forcément rentables, de maintien d'utilisation d'appareils qui étaient plus pertinents pour le programme de la compagnie. Et donc, ce qui fait que tout ça, toutes ces spécificités font que Air France est à l'époque une compagnie qui est particulièrement scrutée dans tout ce qui lui arrive, que ce soit par la classe politique, par les médias, par l'opinion publique aussi. Et donc quand les choses se passent bien, cocorico, tout le monde est content. Et par contre, quand des problèmes émergent, là, ça peut donner lieu à des situations particulièrement tendues.
Et c'est ce qui se passe finalement au début des années 90. Air France se traverse une énorme crise sociale, financière et sociale.
Tout à fait. En 93, elle traverse une des crises les plus dures de son histoire. Il y a plusieurs... C'est vraiment multifactoriel. Et tous ces facteurs s'emboîtent un peu les uns les autres comme des poupées russes. La base de la crise que traverse Air France en 93, c'est avant tout commercial. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence qui émerge, qui est de plus en plus rude, qui entraîne une chute des prix et donc une chute des revenus pour les compagnies aériennes. Et dans ce contexte de concurrence qui émerge, Il y a des entreprises qui sont particulièrement bien armées parce qu'elles se sont restructurées pour encaisser la concurrence, qui vont gagner des parts de marché. Et il y a d'autres entreprises comme Air France qui vont pâtir terriblement de cette émergence de la concurrence. Alors ça amène à une crise financière où à cette époque on sait que Air France perd des milliards d'euros par an, que sa dette est extrêmement élevée. Quand Christian Blanc arrive aux commandes, on ne sait pas encore exactement où se situent ces chiffres-là, mais on sait que la situation est particulièrement critique. C'est une crise sociale aussi, parce que avec les difficultés financières sont arrivées le président Bernard Attali a voulu mettre en place un plan de retour à l'équilibre qui a été massivement rejeté par les salariés, donc qui sont mis en grève, qui ont bloqué les pistes de décollage à Orly. Et donc on a un climat social extrêmement tendu et un dialogue complètement rompu entre la direction et les syndicats. Cette crise sociale amène à une crise de gouvernance, parce que le président Attali est complètement désavoué, il a perdu sa légitimité, d'autant que le gouvernement l'a lâché, disons, et a exigé sa démission. Et donc pour conclure cette accumulation de crises, c'est aussi une crise politique, parce que Air France étant une entreprise publique, la gestion de la crise, qui est assez catastrophique, est imputée au gouvernement d'Edouard Balladur. Et donc tout ce que traverse Air France a lieu avec cette toile de fond de crise politique. Donc c'est pas du tout grossir le trait de dire que c'était la pire crise que traversait Air France, parce qu'elle était vraiment multifactorielle. Et d'ailleurs, on constate dans les médias à l'époque que le sujet d'Air France, il est sur toutes les chaînes de télévision, ouais. Dans toutes les radios, il fait la une des principaux journaux. Et ce qui prouve que c'est une crise qui a un caractère vraiment unique, inédite, et qui témoigne d'une situation qui est un petit peu désespérée.
J'avais vu Christian Blanc, justement, vous l'aviez caractérisé cette année 93 d'année la plus sombre du groupe Air France dans une interview, ce qui rejoint ce que vous dites. Et Christian Blanc, c'est justement dans ce contexte très tendu que le gouvernement vous appelle un peu en catastrophe pour vous demander d'intervenir et d'essayer de trouver une solution. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur cet épisode ?
Oui, je voudrais tout d'abord dire que j'ai lu avec beaucoup d'attention et de plaisir ce livre de Théo, qui y a consacré, je crois, une bonne année pour essayer d'être parfaitement véridique. Et le fait est que je n'ai eu aucune modification à apporter toutes les analyses et les constats qu'il a fait. Alors, pour répondre à votre question, oui, effectivement, j'ai pris la situation d'Air France alors que celle-ci était en mort subite, quelques heures après la démission du président d'Air France, Bernard Attali, et trois jours avant le dépôt de bilan qui était envisagé au Conseil des ministres du mercredi suivant. Donc, vous dire que c'est avec plaisir que j'ai pu me lancer dans cette aventure serait exagéré. Alors, pourquoi j'ai plaisir à le dire aujourd'hui ? J'ai plaisir à le dire parce que Theo Stables naissait au moment de ces événements. Il appartient à cette nouvelle génération et il a compris que le problème n'était pas de faire simplement un récit historique, mais qu'il fallait peut-être, pour sa génération, pour votre génération, en tirer des enseignements. Et l'enseignement principal, et je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est que rien ne remplace l'intelligence collective. C'est-à-dire que même en situation de mort subite, il y avait là entre 40 et 50 000 personnes qui étaient fiers d'appartenir à Air France et qui avaient compris qu'Air France était morte. Et c'est cela probablement qui m'a finalement décidé à faire face à ce défi. La seule condition que j'ai posée et que j'ai posée au Premier ministre qui était en ligne au moment où je discutais avec son ministre des Transports, c'était: écoutez, je suis de très mauvaise humeur que vous me fassiez une telle proposition qui est inacceptable. Alors, je veux que ce soit clair, parce que j'ai déjà vécu dans ma vie des situations peut-être moins graves, mais sérieuses. Je veux que l'on me foute la paix. Et la réponse de Balladur fut: on va vous foutre la paix. Donc ça voulait dire que j'avais tous les pouvoirs à partir de cet instant. Et quel est l'enseignement pour aujourd'hui? Il est que rien ne remplace l'intelligence collective. Que tout est possible dès l'instant où les choses sont clairement exposées et en responsabilité pour tous, ce qui n'exclut pas de prendre des mesures parfois très dures. J'ai viré, à une ou deux exceptions près, dans les 6 mois qui ont suivi, toute la direction d'Air France pour incompétence, en essayant de ne pas parler d'incompétence. Mais tout le monde comprenait parfaitement. Donc, ce que j'ai essayé de faire, d'abord, ça a été très rapidement de reprendre contact avec l'entreprise. Et je peux vous dire que dans les 2 premiers jours, mon cadrage de la direction, il y avait 40 membres à l'époque, puis mes allées sur le terrain, aux endroits les plus chauds, là où la contestation était la plus forte, parfois même la plus sauvage, seule, en empruntant parfois le microphone des gens qui contestaient ma simple venue sur le terrain. En disant, écoutez,
c'est une anecdote que Théo raconte.
On n'est pas en jeu égal, alors s'il vous plaît, je veux pouvoir parler aussi fort que vous, donc vous me passez le microphone. Et la CGT, qui était le syndicat très fort et très dur, obligé devant tout le monde, devant quelques centaines ou milliers de personnes, de me tendre le microphone pour que je puisse, non pas prendre des engagements, je me suis toujours refusé à prendre un engagement, je ne savais pas, j'arrivais, je ne savais pas quelles, y compris des choses qui apparaissaient évidentes, comme revenir sur des plans d'action, etc. Je n'en savais rien. Bon. Donc je n'ai pas fait la moindre promesse, j'ai dit simplement que où nous étions tous responsables, où ce n'était personne, mais si ce n'était personne, il n'y avait plus d'entreprise. Voilà. Donc effectivement, ça a été une arrivée en quelques heures très chaude sur le terrain.
Et finalement, ce dialogue, ça marche et ça rompt avec... Enfin, Théo, moi, ce que je comprends à la lecture de votre livre, c'est que cette manière d'avancer, de dialoguer, c'est une vraie rupture, justement, par rapport à tout ce qu'ont connu les salariés avant. Et du coup, finalement, ça, on va voir que ça marche parce que rapidement, la grève va se débloquer.
Ouais.
Et on va pouvoir avancer.
Oui, exactement. Il y a assez rapidement dans les rangs des salariés, on va se rendre compte qu'il y a en effet une rupture assez importante entre les styles des directions précédentes auxquelles les salariés avaient été habitués et le style, j'ai envie de dire le style Christian Blanc. Mais dans les premières heures, dans les premiers jours, il va sur le terrain, il va à la rencontre des salariés, il va au contact. Et comme ça a été dit, pas pour faire des propositions, pas pour s'engager sur des choses, mais pour montrer un état d'esprit, pour instaurer un dialogue, pour dire vous pouvez faire des propositions. Et voilà, donc pour montrer un état d'esprit. Et donc cette rupture dans le style, elle va faire que dès les premiers jours, alors qu'on considérait encore il y a quelques heures que la situation était probablement perdue, on ne se dit pas du tout qu'elle est gagnée, loin de là, mais on se dit, est-ce qu'il ne serait pas en train de se passer quelque chose de nouveau à Air France ? Et ça, c'est un petit peu ce qu'incarnait cette rupture de style.
Ouais. Et donc le dialogue, petit à petit, effectivement, rien n'est acquis à ce moment-là, mais le dialogue reprend. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Il faut quand même envisager une restructuration, envisager un plan, préparer un plan. Et à nouveau, là, Christian Blanc décide de préparer ce plan. Vous décidez de le préparer avec les salariés.
Je n'insisterai jamais assez, y compris aujourd'hui, sur l'intelligence collective. Étant entendu que tous n'ont pas la même forme d'intelligence. Vous avez des conservateurs qui voudraient retrouver la situation d'antan. Vous avez des gens qui estiment être trop intelligents pour faire des choses simples. Et puis vous avez des gens, en général les plus jeunes, qui comprennent qu'en effet, il faut inventer quelque chose. D'ailleurs, c'est cette troisième catégorie qui se retrouvera pour l'essentiel aux commandes de l'entreprise 3 ans plus tard. Et d'ailleurs, plus rapidement pour certains d'entre eux. Donc, c'est ça l'enseignement pour moi, parce que ça a marché, et parce que, effectivement, les gens se sont mis à réfléchir. À réfléchir, et souvent en famille. Je me souviens de la lettre que j'avais adressée juste avant Noël en leur demandant, en leur proposant un certain nombre de choses très, très précises et en leur demandant d'en parler avec leur famille et avec leurs enfants.
Ils l'ont fait ?
Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait de façon inimaginable. Le nombre de lettres écrites à la main qui est revenu au siège social est considérable. Je ne me souviens plus maintenant des chiffres. Mais c'était considérable. Bon. Et donc, il y a une capacité d'inventivité, une capacité de compréhension, non pas simplement des façons dont on travaille, mais dans la relation à la clientèle, dans ce que l'on peut proposer, qui sera différent de ce qu'on proposait précédemment, tout en gardant les grands principes de ce que Air France représenté pour les Français. Enfin, tout ceci, ça ne s'est pas fait seul. Il y a eu des milliers de rencontres de tous azimuts. On n'a pas beaucoup dormi hein, toute cette période. Bon. et ça a marché jusqu'au moment où il fallait non pas mettre en échec les syndicats, il y en avait 17 en Air France. Bon. Je vous parle de la CGT, parce que la CGT faisait 70% ou 60%, je ne me souviens plus exactement. Mais enfin, c'était un fief CGT important, l'ancienne CGT, pas la CGT d'aujourd'hui, d'ailleurs, je le précise. Mais nous avons, avec des idées simples, en interrogeant beaucoup sur le benchmark, chose largement oubliée encore aujourd'hui en France. Qu'est-ce que c'est une démarche de benchmark ? C'est se comparer aux autres, aux meilleurs, et se dire, est-ce qu'on peut faire aussi bien ou mieux que les meilleurs ? Et la réponse, ben c'est oui, dès l'instant où on décide de le faire. Bon, donc il y a eu un changement progressif, ça a pris quelques semaines, quelques mois même, jusqu'à un moment où mon objectif n'était pas de vaincre les syndicats, mais d'obtenir leur coopération. Et d'ailleurs, il existait quelques syndicats au sein d'Air France qui avaient compris très rapidement et qui ont accompagné ce mouvement. Mais c'était effectivement de permettre à toutes ces énergies de se libérer dans l'ordre, c'est-à-dire par rapport à un plan d'action. Hein, et ensuite, il ne s'agissait pas de vaincre les syndicats, mais de faire en sorte que les personnels d'Air France s'expriment. Et comment se sont-ils exprimés ? Ça a été la première fois que ça se produisait dans une entreprise, par un référendum. Un référendum monde entier, dans toutes les succursales d'Air France, dans toutes les agences d'Air France, partout, etc. Et qui a connu un taux de participation colossal. On devait être à 85% de taux de participation. Et 80% de oui. Oui à un plan qu'ils avaient pour l'essentiel collectivement élaboré, dont nous avions repris au sein de la direction l'essentiel également, pour dire sur les 4 ans qui viennent, voilà ce que l'on va faire. Et effectivement, ça passait par des choses un peu difficiles. Je pense par exemple au salaire qu'il fallait réduire, à commencer par le salaire du président, et puis de tout le monde. Hein ? Voilà. Et donc, pour faire en sorte que la pression par les coûts ne soit pas trop présente, et puis faire en sorte que ce qui n'avait pas été fait pour Air France depuis un certain temps le soit, c'est-à-dire qu'il y ait un véritable crédit approuvé par la Commission des communautés européennes qui soit mise à sa disposition, une subvention en fait, et puis c'est parti comme ça. Et le renouveau d'Air France s'est construit à partir de cette volonté collective et à partir, je dirais, de ce mutisme approbateur des dirigeants du pays en ayant dégagé ou fait taire tous ceux qui, à l'intérieur de l'entreprise, étaient simplement des technocrates.
En fait, en remettant les salariés au centre de leur entreprise, c'est une sorte d'espoir qu'on leur redonne et un dynamisme qui revient et qui, en fait, réenclenche toute la machine. C'est ce que je comprends.
C'est bien cela.
Oui, et puis, si vous le permettrez, j'aimerais bien revenir sur ce qu'a évoqué Christian Blanc au moment de mettre en mouvement l'intelligence collective, de la mobiliser, parce que c'est, comme il l'a expliqué, absolument clé dans cette histoire. Il y a eu deux principaux moyens qui ont été utilisés pour ça. Et c'est à une époque où il y a 30 ans, la technologie est encore assez limitée. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que 42 000 salariés réfléchissent et participent à élaborer un plan pour l'avenir de leur entreprise? Donc le premier élément, c'était les réunions qui étaient principalement organisées par un sociologue, François Dupuis, et qui avait pour mission d'essayer de diagnostiquer un petit peu ce qui avait poussé les salariés à la grève, de comprendre leur motivation, de comprendre ce qui n'allait pas dans cette entreprise. Et donc il a organisé plus de 2000 réunions décentralisées à tous les niveaux de l'entreprise, et ces réunions qui sont avérées devenir des cellules
d'écoute, de dialogue, d'échange, d'élaboration d'idées. Donc ça c'est le premier point. Et le second, en effet, ce sont les 42 000 questionnaires papiers qui ont été envoyés au domicile de chaque salarié. La direction a reçu 15 000 réponses qui sont toutes écrites à la main et en fait qui dressent une cartographie presque totale de tout ce qui pouvait dysfonctionner dans l'entreprise. Et je pense que ces questionnaires ces questionnaires ils sont très importants à deux titres. Déjà pour ce qu'ils contenaient en soi, qui était tous les dysfonctionnements à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit sur les modes de travail, la hiérarchie trop épaisse, les prestations en vol qui se dégradaient, les relations entre les différentes classes de salariés. Enfin, il y a toutes les réponses sont dans ces questionnaires. Et le deuxième point pourquoi ces questionnaires étaient importants, c'est que quand on est salarié d'Air France et que depuis des semaines on se demande est-ce que demain Air France sera toujours là, ou quand est-ce qu'Air France va cesser son activité, c'est extrêmement lourd émotionnellement. Et quand on commence à réfléchir, à écrire, à échanger sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on pourrait faire mieux, on réfléchit déjà à l'avenir, en fait. Et je pense que dans cette situation, quand on commence à réfléchir à l'avenir, c'est que finalement, il reste encore un peu d'espoir. Et c'est là-dessus que l'entreprise, la direction et les salariés vont capitaliser pour reconstruire de fond en comble la compagnie.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan ? Il y avait des mesures économiques, bien sûr, et il y avait une restructuration de l'entreprise. Vous disiez qu'on se comparait avec les concurrents, etc. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une restructuration profonde de l'organisation de l'entreprise ?
Ce plan, il était très ambitieux, et il était à la fois assez classique et très original. Alors, pourquoi ? Parce que assez classique, parce que finalement, on a une entreprise qui financièrement est exsangue d'Air France à ce moment-là. Parce que quand Christian Blanc arrive, on ne sait pas encore trop. Trois semaines plus tard, il annonce les pertes de l'entreprise. C'est 7,5 milliards de francs. La dette, elle est à 30 milliards de francs. Ça représente 80% de son chiffre d'affaires et ça représente 10 fois ses fonds propres. Aucune entreprise ne peut survivre. À l'époque, compte tenu de cette situation, l'entreprise perd de l'argent à chaque fois qu'un avion s'envole. Elle emprunte de l'argent pour payer les salaires et elle emprunte de l'argent pour payer son kérosène qui va être mis dans des avions qui vont décoller et creuser eux-mêmes les pertes. Donc c'est un cycle infernal et les créanciers commencent à se désengager. Donc ça, c'est la situation financière et qui fait dire à beaucoup d'observateurs et aux conseillers financiers de l'entreprise que bon, déjà, il faudra des sommes colossales pour recapitaliser. Ce sera autour de 20 milliards de francs. Et en plus, on ne pourra pas faire sans un plan social d'une ampleur absolument inédite. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan de redressement ? Ben forcément, il y a des mesures d'économie qui sont très importantes. Il y a un gel des salaires, un gel de l'avancement, des promotions. Et il y a, alors ça c'est pour le coup c'est plus original, il y a cette proposition de faire un redressement qui est plutôt social, c'est-à-dire on ne va pas baisser les salaires, par contre les salariés, vous pouvez le faire sur la base du volontariat, En échange de quoi vous recevrez
des actions
Air France. Et si on arrive à redresser le navire, eh bien, dans quelques années, vous récupérerez en gain de capital ce que vous avez consenti en baisse de salaire. Donc ça, c'était une réelle innovation pour l'époque. Il y a dans ce plan de... Alors, il y a plein de mesures sur une meilleure utilisation des avions, du programme. Il y a un objectif très ambitieux d'augmenter la productivité de 30%, ce qui est quand même colossal, de travailler un petit peu plus. En fait, il y avait des conventions collectives chez Air France qui avaient légèrement abaissé le temps de travail par rapport à la durée légale. Donc, proposition faite de rehausser le temps de travail. Ce qui fait que pour les syndicats, socialement, c'est quand même une pilule assez amère pour les salariés. Et donc, ce qui est original et ce qui a probablement fait la différence dans ce qui était proposé aux salariés, c'était qu'en plus de ces mesures qui étaient, il faut les appeler telles qu'elles sont, des mesures d'austérité pour les salariés, on promettait aussi, ou on proposait plutôt, de travailler différemment, de casser la bureaucratie, de casser les cloisonnements, de rendre le travail plus intéressant, plus responsabilisant pour les salariés. Et on leur proposait de passer finalement du statut d'agent d'exécution au statut d'acteur d'une reconstruction d'une entreprise. Et je pense que c'est au-delà du fait que finalement, pour beaucoup de salariés, il y avait aussi l'impression peut-être de ne pas avoir beaucoup le choix parce que c'était ou bien ça ou bien rien, ou bien la fin d'Air France, mais il fallait quand même faire le choix courageux pour les salariés de se dire bah, ok, on y va et on va voter oui à ce référendum.
Alors c'est ça qu'il faut bien souligner, en particulier aujourd'hui, c'est que à 80% les salariés ont fait le choix de quelque chose qui apparaissait comme étant a priori infaisable. Ils ont fait le choix et nous avons gagné. Et ils ont gagné. Mais ça a nécessité que ça se fasse rapidement et qu'on ne perde pas de temps du tout, car on était dans un système concurrentiel terrible, avec un certain nombre de compagnies, amis, je pense à British Airways ou à Lufthansa, qui se demandaient, dans leur plan interne, à partir de quel moment ils allaient absorber cette compagnie continentale qui était au cœur de l'Europe. Donc on leur a pas laissé la possibilité de le dire, et on ne l'a nous-mêmes jamais dit. C'est-à-dire que nous avons dit voilà ce que nous allons faire. Tout le monde a dit ben c'est pas possible. On l'a fait. Surprise générale, mais ça a nécessité d'être vigilant partout, et de faire appel, si nécessaire, à des étrangers qui savaient faire. Bon. Et c'est la raison pour laquelle j'avais passé un deal avec l'ancien patron de Continental Airlines qui partait avec les honneurs après avoir magnifiquement fait valoriser Continental Airlines. J'étais allé le voir à Denver, mais très vite, hein, dans les premières semaines, pour lui dire « en effet, pour être complémentaire ». Alors, surpris. Et oui, vous êtes riche, je suis pauvre. Vous êtes compétent, je suis incompétent. Et là, il a compris qu'il ne pourrait pas échapper. Et il nous a bien aidés, et en particulier sur un point très important qu'il nous faut évoquer, le hub. Bon, tout le monde parlait du hub. Sauf que dans un voyage éclair que je fais en Amérique du Nord, on a notre avion qui est en retard et le directeur de l'aéroport m'a dit ben, on va visiter en attendant. Et on fait la visite. Et moi, je dis rien, mais je regarde tout ça. J'arrive le lendemain matin à Paris et je convoque les deux types qui étaient des professeurs dans les grandes écoles en disant « Alors, vous nous avez parlé très souvent du hub de Charles de Gaulle, mais je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez me raconter à nouveau ?» Alors, parfait, c'est ce qu'il racontait aux étudiants, etc. Et là, à la fin de leur propos, j'ai dit « Messieurs, vous êtes virés. » Parce qu'un hub, j'en ai vu fonctionner un hier, et il ne fonctionnait pas comme ça. Mais à ce moment-là, entre prendre une telle décision qui peut être rapide et mettre en place un hub, il fallait à minima un an. On n'avait pas le temps. Donc, c'est là que ce nouvel ami américain m'a été très utile en ayant auprès de lui un collaborateur qui était un type, un Indien, qui aujourd'hui est le patron du système aérien indien, qui a mis en place, effectivement, avec un de mes très proches collaborateurs, le hub en 6 mois. Ça a été une véritable performance. Ça a considérablement dopé nos recettes. Donc, vous voyez, il fallait pas se tromper, mais il fallait aller vite, toujours. Et ça vaut aujourd'hui pour tous les étudiants, tous ceux qui veulent faire des... qui sont dans des entreprises où on se lamente un peu des bureaucraties, du temps qu'il faut, etc. Non, si l'on veut vraiment aller vite, c'est possible. On ne s'est pas trop trompé, mais on aurait pu se tromper. Je vais prendre un deuxième exemple. Les Allemands, nos amis allemands, apprenant qu'on envisageait de changer complètement le service à bord, bon, de supprimer la première, petite parenthèse, ne voyageaient en première que les hauts dignitaires d'Air France, parce que c'était trop cher pour les autres. N'est-ce pas ? Bon, donc on a supprimé la première, etc. On a complètement transformé le mode d'organisation à l'intérieur des avions. Bon. Les Allemands étaient sur un coup qui consistait à transformer 6 sièges en 4, enfin, etc. Très technologue, nos amis allemands. Et nous, on n'a pas fait ça du tout. On a inventé quelque chose qui était ce qui existe toujours, d'ailleurs. La classe affaires qui peut devenir classe seconde et vice-versa. Bon. C'était simple comme tout. Il a fallu 3 ou 4 mois à quelques experts que j'avais expédiés dans les Alpes en disant « Vous nous reviendrez que lorsque vous aurez trouvé. » Ils sont revenus parce qu'ils avaient des vacances à passer en famille beaucoup plus vite que je ne les attendais, mais avec la solution. Et on l'a mise, alors on a breveté pendant 2 ans, c'est ce qui était possible, et ensuite, etc., etc. Donc, il ne faut pas dire « ça va être difficile ». Si on doit le faire, on le fait.
Air France, pour survivre, avait besoin de 20 milliards de francs. Donc une recapitalisation qui ne pouvait que être apportée par l'État français, puisqu'en plus c'était une entreprise publique. Donc c'est une affaire qui se règle directement dans le bureau du Premier ministre entre Christian Blanc et Édouard Balladur au cours d'une discussion. Donc la réponse de Balladur, c'est d'accord, on va sauver Air France, mais ce que les deux hommes sont d'accord pour dire qu'il faut il faut des garanties, donc il faut un plan solide et il faut des salariés qui soient prêts à vivre cette transformation. Donc à ce moment-là, Christian Blanc va mettre les syndicats un petit peu dos au mur, d'une certaine manière, en leur disant « ce plan qu'on vous propose, il ne sera mis en route que si l'ensemble des syndicats signent le plan et se déclarent prêts à porter la restructuration, à porter la transformation de l'entreprise ». Donc évidemment, c'est un pari c'était quasiment joué d'avance que tous les syndicats n'accepteraient pas de signer, même s'il y en a eu quand même un certain nombre. Mais il manquait 8 signatures sur 14, il me semble. Et donc c'est à ce moment-là que, même si peut-être je soupçonne que l'idée du référendum ne soit pas apparue comme par magie au moment où les syndicats n'ont pas voulu signer, c'était peut-être quelque chose qui était déjà dans les tuyaux par le passé. Mais à ce moment-là, les syndicats refusant de signer, on va dire, eh bien, très bien, c'est les salariés qui vont décider, c'est les 42 000 salariés qui vont voter. Est-ce que oui ou non, ce plan pour sauver Air France, on a envie de le porter, avec les résultats qui ont été évoqués tout à l'heure, plus de 80% de participation et plus de 80% de oui. Donc c'était vraiment, on ne pouvait pas imaginer une plus grande légitimité pour entamer la restructuration de l'entreprise. Et non seulement il y a cette légitimité qui est totale, mais en plus, à ce moment-là, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, Christian Blanc et la direction, ils ont derrière eux une armée de salariés qui est prête à porter le projet.
Ouais, non, c'est vrai que c'est un exemple assez fou de, justement, de dialogue social et d'énergie collective, ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment ce qui caractérise cette restructuration. Et on peut peut-être finir là-dessus. Donc le plan est voté et approuvé, et ensuite les salariés continuent à s'investir pleinement dans la mise en œuvre du plan, justement, dans les années qui suivent.
Je pense qu'en effet, pour avoir dans la suite du livre évoqué les 20 ou 25 années qu'ont suivi la période Christian Blanc, je ne crois pas que Air France ait jamais plus avancé en 3 ans et demi ou 4 ans que... C'est colossal ce qui a été accompli en 4 ans, parce qu'il y avait une urgence, c'était impératif de réussir, parce que c'était ça ou la disparition. Mais quand même, ce qui a été fait en 4 ans, sur le plan commercial, sur le plan de l'offre, avec les sièges qui ont été évoqués par Christian, sur le plan du hub mis en place avec l'aide de Steve Wolf et Rakesh Gangwal, sur le plan du yield management, qui était un ensemble d'outils informatiques dont s'étaient dotés tous les concurrents, qui permettaient de maximiser les recettes sur chaque vol et de maximiser l'offre globale d'une compagnie aérienne, des outils extrêmement complexes qui mettent du temps à être mis en place, ils les ont mis en place chez Air France en un temps record. Et tout ça, il fallait réduire les salaires, faire des économies très importantes. Il fallait commencer à penser à nouer des alliances avec d'autres compagnies mondiales. Il fallait intégrer Air Inter pour créer des synergies entre la compagnie intérieure et les vols internationaux. Il y a d'autres points encore, mais c'est C'est, voilà, c'est absolument colossal ce qui a été effectué en si peu de temps pour une compagnie aérienne.
Quand on parle de si peu de temps, c'est 3-4 ans en fait.
Oui, exactement. Ouais. Et ce qui... Il n'y a pas de surprise finalement au final, quoique un petit peu quand même, mais quand en 1997, donc 4 ans après l'arrivée de Christian Blanc, Air France est bénéficiaire et elle s'est transformée de fond en comble et elle a construit les fondations d'une compagnie aérienne qui allait dominer le ciel pendant 10 ans après. Donc voilà, le résultat, il est là.
Je trouve que c'est une belle conclusion. Je ne sais pas si Christian Blanc, vous avez quelque chose à ajouter.
Bah écoutez, ce que je souhaite, c'est que l'on fasse pour la France ce qui a été fait pour Air France. Je crois que c'est possible, à la condition que cette nouvelle génération dont je parlais tout à fait au début, ne se disent pas que c'est exceptionnel, c'était peut-être un peu en avance, et c'est tout. Et je pense que la France a les potentiels pour pouvoir, si elle développe son intelligence collective, a les potentiels pour réaliser de très très belles choses. D'aucuns parlent de grandes choses. Moi, je crois que nos démocraties sont en danger, nos systèmes économiques sont en danger, et que nous avons les potentiels, et nous l'avons montré sur un exemple précis, mais d'autres existent, les potentiels pour faire en sorte que cette génération donne au monde une coloration humaine qui commence à faire quelque peu défaut et une coloration démocratique qui va incontestablement faire défaut. Donc je suis résolument optimiste et c'est pour ça que j'ai lu avec beaucoup, beaucoup de plaisir ce livre qui... où Théo Stabol s'est totalement exprimé et que vous serez nombreux à pouvoir le lire, à le commenter, à le critiquer et à faire en sorte que chacun s'approprie sa part de cette démarche.
Un grand merci Christian Blanc et Théo Stabols pour cet échange.
Merci à vous.
Et je remercie aussi le cabinet Apostrophe Avocat de nous avoir prêté ses locaux pour ce podcast.